Émission Mangeuse, ton émission du midi. Ton émission d'actualité, on analyse pour toi la politique. Dans quelques instants, dans le caucus avec Antonine Iaccarini. On va parler de Maïté Blanchette-Vézina qui se joint au Parti conservateur. Est-ce une opportuniste? Non seulement elle se joint au Parti conservateur, mais elle s'en va dans la pelleterie. La pelleterie, c'est quoi ça? C'est la circonscription d'Éric Kerr. Oh, attends, je vais ouvrir ton micro, Antonine, je m'excuse.
Ah, les gens n'ont pas entendu mon effet sonore.
Non.
Ça. Je disais pam, pam, pam.
Pam, pam, pam. On le sait, la pelleterie, Éric Duhaime, qui a milité dans cette circonscription-là pour une pétition pour obliger Éric Kerr à démissionner. Donc, bref, on va aller voir sur Québec 125. Mais d'après moi, c'est un comté qui est pas mal en avance pour le Parti conservateur du Québec. Alors, on se pose cette question-là avec Maïté Blanchette-Vézina. Notre chum Mathias qui est allé au point de presse de l'équipe technique des travaux Tram Cité. Parce que le maire nous le dit, tout va bien, mais il faut faire une conférence de presse à 9h30 matin pour expliquer qu'on va faire des changements. Comme un double message pour moi. Ça va bien, mais je vais convoquer la presse pour dire comment on peut faire mieux. Alors, c'est ce que Mathias est allé faire. Et on va également avoir dans la première heure Marine Anglois, directrice générale de la Société de développement commercial de Montcalm. Elle m'a écrit hier et elle m'a dit, même si Bruno Marchand dit que la communication va bien, je vous le dis, c'est le bordel dans la communication. Donc, on va avoir Marie Langlois avec nous aux alentours de 12h50. Sinon, 418-971-1021 pour nous joindre par texto. Également, blvd.fm, c'est notre web radio, c'est notre site web pour aller réécouter les meilleurs moments. Le caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve à chaque jour, tout comme sur notre page YouTube, où je vous invite à aller vous abonner. twitch.tv/blvd/fm pour venir voir nos faces en studio. Et la meilleure façon de nous écouter, l'application BLVD 102.1, disponible sur App Store et Google Play Store. Pascal CV, comment ça va?
Ça va très bien.
C'est pas ta fête aujourd'hui, mais c'est la fête à Rémi Villemur.
Ouais, on suit, lui et moi.
Ouais, exactement. Donc, on l'a tout à l'heure, Rémi, justement, aux alentours de 13h05, 13h10. Il veut déchirer sa chemise sur Desjardins et sa nouvelle façon d'afficher le solde des cartes.
Et avec raison, tu sais, hier, il y avait trop de nouvelles pour qu'on en parle, mais sérieusement, là, quand tu mets, mettons, une couple de centaines de piastres, ta carte de crédit, puis c'est pas affiché, ça te prend 24, 48 heures, c'est un peu tannant.
Ben,
c'était
exactement
comme ça avant, on pouvait le voir maintenant. On a fait une mise à jour, c'est plus le cas, puis on dit on peut pas reculer.
Non.
Fait qu'il va falloir faire avec.
Ah, il va falloir faire avec, c'est ça. Il est pas très satisfait de la réponse de Desjardins, il va nous parler de ça. J'en parle que c'est sa fête, parce que je suis sûr que tu vas me faire penser de souhaiter bonne fête. Moi, c'est le genre d'affaire que j'oublie. Moi, une chance que Facebook existe pour me dire que c'est la fête du monde.
Fait que les gens qui écrivent pas leur fête sur Facebook n'auront jamais de bonne fête de ta part.
Non, ben exactement. Ou qui n'ont pas écrit à bonne date au moment de s'inscrire, parce qu'il y en a qui ont fait ce fin finot-là.
Ah,
là,
c'était mon cas. J'avais peur de tout quand
c'est
ça. Je mettais pas mes
puis
dates.
Puis là, ben, l'autre jour, j'ai souhaité bonne fête à une de mes amies le 2 janvier. Elle me dit, ah, c'est pas le 2 janvier. C'est la fête que j'ai souhaité bonne fête quand même. Elle me répondait. Elle dit,
mais
non,
Facebook, ça a changé aussi. Il y a une mise à jour qui maintenant te propose des mots préconçus, des phrases préconçues. Là.
Mm-hmm.
Puis là, à un moment donné, tu reçois une coupe de bonne fête, c'est toute la même chose. Joyeux anniversaire, virgule, ton prénom avec 2-3 émoticônes. Fait que tu vois qu'il prend un peu plus le temps pour en mettre des personnalisés ou pas.
Ben moi, sinon, si je le fais par Facebook, souvent, je choisis la phrase déjà parce que sinon, je vais aller écrire à la personne, soit par texto,
moi,
sur Messenger, mon message de fête en
privé. Personnalisé.
Personnalisé.
En tout cas, moi, tu pourras pas me souhaiter bonne fête parce que ma date de fête n'est pas sur Facebook.
Non!
Non.
C'est quoi ta date de fête?
Je le dis pas.
Hein? Je pourrais même pas jamais te souhaiter bonne fête.
Jamais.
Ah ouais, mais tu sais qu'ici, là, maintenant que tu collabores à temps régulier, Pascal,
c'est dans mon dossier d'employé.
C'est ça. On va la faire intégrer au calendrier des bonnes fêtes.
Non, fais pas ça parce que je déteste ça. C'est pas des
jokes. Ah, ouais?
Je n'aime pas ça.
C'est de valeur parce que je connaissais bien la personne qui a le calendrier.
Ouais, t'as des bons contacts. Et pourtant, Anto est d'une générosité. Quand j'ai eu 30 ans, elle a écrit un texte, puis il était plus global pour les gens qui passaient le cap de la trentaine.
Mm-hmm.
Puis
t'écris
pour nouveau, hein, c'est ça, des fois. Fait qu'elle avait écrit à une de mes amies, tombe dans la trentaine, voici mes conseils.
Ouais.
Voici mes conseils pour t'assurer de mettre des bonnes bases ça pour la suite des trentaine. Choses.
Mais je trouve qu'à notre âge, passer une décennie, dans nos âges, passer des décennies, c'est des moments importants. Mais se souhaiter bravo d'être né à chaque année, là, moi, à un moment donné. Moi, c'est pas mon trip à moi. Puis surtout, quand c'est écrit sur Facebook, je passais ma journée à gérer 500 messages, dont... Tu sais, trois quarts de gens que je connais pas vraiment.
Ouais, mais là, c'est parce que t'es trop populaire, 500 messages.
Ben là, t'en reçois combien, mettons?
On reçoit beaucoup.
Ben, c'est ça, ça fait beaucoup. Mais il y en a à qui ça fait plaisir. Moi, l'anniversaire, c'est pas quelque chose qui me...
D'accord.
Je préfère quand les gens pensent à moi...
À l'année longue.
Oh,
à
l'année longue. C'est donc
bien. Même principe que la Saint-Valentin.
C'est donc bien bien
dit. Ouais, là, parce que la Saint-Valentin, je veux quand même un cadeau.
Je veux qu'on souligne, qu'on se freine, puis un cadeau.
Je suis tellement content. Je comprends pourquoi le chum Anto est comme il est. Quand on le voit ici des fois, il est calme.
Oui.
Je le comprends parce qu'il y a tellement de consignes qui viennent différentes. Souhaite-moi pas bonne fête. Donne-moi un cadeau
à Saint-Valentin.
Ah, il n'y
a pas besoin. Il l'aime tellement. Là. Exact. Ça, elle ne va pas se prononcer ou elle va se prononcer. Mais il l'aime tellement.
Ben, c'est ça.
Il s'en fout bien raide de ses commentaires ou de ses règlements. Il les instaure lui-même.
Oui, ouais. Je l'adore, ton chum. C'est un modèle pour nous tous. Va falloir que j'aille souper avec lui. Pascal Sévin, avant de passer au caucus, il y a Karine. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ben oui, ben, il y a une annonce importante. On en a jasé un peu, mais Maïté Blanchette-Vézina qui convoitera la pelleterie. Alors, c'est officiel. Ils se sont flirtés pendant bien longtemps. Elle et Éric Duhaime, c'était une question de temps après avoir quitté la CAQ pour Mme Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, d'annoncer son nouveau mandat. Elle rappelle d'ailleurs que c'est un engagement qu'elle va chapeauter avec intensité, avec respect, tout ça. Mais Maïté Blanchette-Vézina est officiellement aux côtés d'Éric Duhaime pour les prochaines élections. Circonscription, la pelleterie qui est actuellement détenue par son ancien collègue à la CAQ, Éric Kerr. Sinon, chantier du tramway, bilan positif, mais un chaos inévitable, c'est ce qu'on dit du côté de l'Hôtel de Ville. Bruno Marchand était en entrevue hier avec l'équipe du retour. C'est toujours possible d'aller le reprendre. Mais on a dressé un bilan positif du début du méga chantier du tramway, du réseau de transition d'autobus aussi. Mais on s'entend quand même à des journées de chaos durant les travaux. À vous et à vos claviers, 88-971-102, vous en pensez quoi? Gilles Loly a été approché dans les dernières semaines par le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard. C'est ce qu'a appris le Soleil. Donc, l'ex-maire de Lévis confirme avoir rencontré pour discuter de politique il y a environ 2-3 semaines. Il parle toutefois d'une rencontre informelle. Il précise qu'il n'a reçu aucune offre en vue des prochaines élections. Pour M. Milliard, on a voulu minimiser la nouvelle. On a indiqué que les discussions sur une éventuelle candidature ne sont pas sur le radar, mais il est toujours heureux de compter sur ses conseils et son amitié, donc à M. Laulier. Important quand même, cette nouvelle-là. Hein? On pensait qu'il allait quitter la politique.
Mais... Non, il avait laissé la porte ouverte voilà à peu près un an qu'il allait peut-être justement continuer ailleurs en politique. Et là, cette porte-là est ouverte plus que jamais. Ce matin, on se posait la question justement, est-ce qu'on le prendrait comme candidat avec le fait qu'à Lévis, ça va quand même pas bien à l'heure actuelle. Anto, t'en penses quoi?
Ben, c'est ça. C'est une candidature qui est chargée et en ce moment, ça brasse beaucoup du côté de la municipalité, de son héritage. Donc, en tout cas, je ne sais pas si le Parti libéral a sûrement des candidatures qui viennent avec un moins gros bagage.
Je suis convaincu que le Parti conservateur du Québec aussi, avec la montée dans les sondages, le fait qu'ils sont très bien placés dans Chaudière-Appalaches, j'imagine qu'on est capable d'aller chercher un candidat qui va faire moins de diversion.
Certains auditeurs nous écrivent, ça presse pas, le Laulier.
Non, exactement.
Non. Après, Bernard Drainville, qui est candidat à la chefferie du Parti de la CAQ, il y a le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et la porte-parole du PQ en matière d'habitation, Catherine Genticor, qui présentait ce matin l'offensive qui va mener un gouvernement du Parti québécois à diminuer les coûts de la construction au Québec. On voit que c'est un pancho là, de la politique provinciale en ce moment, et le PQ embarque dans la danse. Donc, on dénonce les coûts de construction anormalement élevés au Québec, et on parle aussi de manque de constance, de fiabilité du gouvernement comme donneur d'ouvrage, du fardeau réglementaire trop lourd. On sent qu'aux prochaines élections, ça risque d'être un des nerfs de la guerre. Super intéressant de voir qu'on s'y penche aussi. Et je vais terminer avec des nouvelles de la collision à l'aéroport LaGuardia. Hein, tragédie immense. Le camion qui a été touché, a été le seul de son convoi à ne pas s'arrêter. C'est ce qu'on a dans les informations de dernière minute. L'enquête sur la collision entre l'avion de Jazz Aviation et le véhicule d'urgence est toujours en cours. On a élément après élément. Bien sûr, on veut plus pour être révélateur dans cet accident-là. Et on on pense aussi aux pilotes, aux copilotes qui ont malheureusement perdu la vie dans tout ça. Beaucoup de blessés aussi. Et on comprend que la manœuvre, finalement, a épargné beaucoup de vies.
Hier, tu nous avais fait un très bon dossier avec Charles-Éric Lamarche. On l'a eu ce matin également dans Marceau le matin. Alors, les deux entrevues sont disponibles sur le BLVD.fm. Hier, vraiment, au premier balbutiement de cette tragédie-là. Et ce matin, là, avec justement les informations qu'on avait en surplus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini. C'est du lundi au jeudi à compter de midi jusqu'aux alentours de 12h30. Antonin, le mariage s'est fait entre Maïté Blanchette Vézina et Éric Duhaime. Est-ce que Maïté Blanchette Vézina est une opportuniste en quittant Rimouski pour la pelleterie?
Bon, il y a une dose d'opportunisme à travers ça, c'est sûr. Moi, je trouve surtout que c'est un deal très gagnant pour Éric Duhaime.
Vraiment?
Semi-gagnant pour Maïté Blanchette Vézina. Semi-gagnant parce qu'elle a des bonnes chances de l'emporter dans la pelleterie, mais c'est pas gagné non plus. Je regardais justement les projections dans la circonscription. Le Parti conservateur est en tête avec 31 % des voix. Parti libéral à 27 % Mais ça n'a pas terminé de bouger. C'est quand même serré. Là, je vois le PQ est à 23 % quand même encore. Donc, ce genre de course à trois et même à deux, ça peut, dépendamment si le PQ continue de se maintenir. Là, en banlieue de Québec, le PQ, c'est quand même surprenant. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des chiffres comme ceux-là. Donc, c'est pas gagné. C'est pas un château fort.
Jamais gagné d'être parachuté. Je me souviens, dans Chauveau, on avait parachuté Jocelyne Cazin du côté de la CAQ. Et c'est l'ancienne, justement, lectrice de nouvelles, Véronique Tremblay, qui l'avait emporté. Une fille native de Québec.
Absolument. Donc, le parachutage, ça a un coût. Le virage de capot, ça a un coût aussi. Maintenant, c'est sûr que pour Éric Duhaime, tu te dis, il faut qu'il aille chercher des candidats qui ont une certaine crédibilité. Tantôt, on parlait de Gilles Lehoulier. Oui, il arrive avec un bagage, mais c'est quand même quelqu'un qui a une expérience de pouvoir exécutif, de gestion, qui est intéressante parce que M. Duhaime doit trouver 125 candidats. Là. Puis la dernière campagne électorale, c'était pas tous nécessairement des super champions. Donc, pour lui, Maïté Blanchette, qui a été ministre, c'est intéressant. Mais pour elle, il va falloir qu'on comprenne un peu le fil conducteur de ses valeurs. Parce que être vire capot, ça peut arriver en passant de changer de parti politique. Je veux dire, René Lévesque a changé de parti politique, Lucien Bouchard a changé de parti politique.
Oh, puis nous, en tant qu'électeurs, on change de parti politique aussi parce que notre pensée évolue.
Elle peut évoluer et les partis changent aussi. Le Parti libéral de Jean Charest, le Parti libéral de Philippe Couillard puis le Parti libéral de Dominique Anglade, c'est trois partis différents.
Prends juste moi, je me retrouvais dans le Parti libéral de Philippe Couillard, dans celui de Dominique Anglade, pas pantoute.
Pas pantoute. Donc, il faut avoir une flexibilité. Moi, j'ai pas de problème. C'est juste que le timing... Bon, Madame Blanchette Vézina a décidé de quitter le jour où elle a été exclue du Conseil des ministres. Un peu comme Claire Samson, qui était frustrée, elle aussi, à l'époque, parce qu'il y a des comparaisons à faire avec Claire Samson. Éric Duhaime refait le coup, avant quelques mois des élections, d'aller chercher une députée à l'Assemblée nationale, une députée indépendante.
Ça a été gagnant une fois, fait qu'on est allé pour la deuxième fois, mais pour Maïté Blanchette-Vézina, ça a été long avant qu'il se passe l'anneau là, politique là, au doigt. Est-ce que c'est justement parce qu'elle se questionnait au niveau des valeurs, selon toi?
Je pense qu'elle a voulu laisser... une période tampon. Elle a voulu aussi agir comme députée indépendante, aussi parce qu'au début, elle disait vouloir respecter ses électeurs. Donc, elle disait « Je vais continuer de siéger, compléter mon mandat et je vais le compléter comme indépendante plutôt que de passer d'un parti politique à l'autre et vraiment là, être une transfuge comme telle. » Mais le résultat est finalement un peu le même. J'imagine qu'Éric Duhaime devait la travailler au corps pas mal parce que pour lui, c'est très, 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 très intéressant. Là, Maïté Blanchette ou Youri Chassin, en passant, pouvait inviter M. Duhaime à venir faire des points de presse, etc., pouvait faire des alliances ponctuelles, mais demeure qu'il n'y avait pas d'élu de la bannière conservatrice. Bon, personne n'a été élu sous la bannière conservatrice quand même, il faut se rappeler. Mais pour M. Duhaime, ça veut dire que la porte est constamment ouverte maintenant à l'Assemblée nationale pour lui. Qu'est-ce que ça donne de plus? On peut se dire, ah, c'est pas grave. T'sais, M. Duhaime a quand même réussi à maintenir sa force politique et devenir un incontournable malgré tout. Mais quand même, la presse parlementaire, les journalistes qui couvrent la politique, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils ont leur bureau sur place, ils arpentent les corridors de l'Assemblée nationale. Il y a des points de presse en tout temps. Okay, à l'Assemblée nationale, tu peux dire à quelques minutes d'avis, là, tu rentres dans une salle avec un micro, des caméras et tu convoques un point de presse. Puis dans cinq minutes, tu as tous les médias du Québec qui vont te couvrir. Évidemment, ils ne sont pas obligés de faire un article ou un reportage avec ce que tu dis, mais c'est un accès qui est extraordinaire. Deuxièmement, c'est le fait de pouvoir poser des questions au gouvernement, parce qu'il y a la période de questions, c'est ce qu'on voit le plus hein, dans les nouvelles, les extraits qu'on voit de l'Assemblée nationale, c'est rarement les commissions parlementaires où on ne se chicane pas, c'est la période de questions. Et là, Mme Blanchette-Vézina va pouvoir poser des questions au nom du Parti conservateur, donc là, va devoir s'entendre comme indépendante et poser des questions, peut-être en demandant l'avis à M. Duhaime, mais peut-être pas non plus.
Et tu nous avais expliqué aussi que pour Éric Duhaime, ça lui assure pratiquement une place pour le débat des chefs en raison justement d'une présence à l'Assemblée nationale d'une députée. Je pense que c'est là qu'il est le plus gagnant, Éric Duhaime.
C'est majeur, OK? Parce que les conservateurs n'aimaient pas trop ça quand je disais ça, parce que je disais ce que ça leur prendrait, c'est... À l'époque, je parlais de Youri Chassin, quand il est parti de la CAQ, je me disais, c'est tellement... Il est conservateur, Youri Chassin.
Exactement.
Donc, je me disais, il va ouvrir la porte de M. Duhaime à l'Assemblée nationale, mais à avoir son lutrin au débat des chefs. Parce qu'il faut comprendre que les règles de qui est invité au débat des chefs, c'est pas quelque chose qui est régi par le directeur général des élections. C'est quelque chose qui est régi par les médias eux-mêmes. Donc, on peut décider où on trace la ligne de t'es invité ou t'es pas invité. Pour Éric Duhaime, c'est sûr que quand on voit qu'il est à 15% dans les sondages depuis quand même longtemps maintenant, et qui a fait un résultat très intéressant aux dernières élections, j'aurais été surprise qu'il ne soit pas invité.
Moi aussi. Surtout avec le résultat, en plus, à Chicoutimi, à l'élection partielle, où il s'est classé deuxième derrière le PQ en région.
Mais ça demeure subjectif et arbitraire oui. jusqu'à un certain point. À partir du moment où est-ce que tu as une représentation à l'Assemblée nationale, même si l'élu n'a pas été élu comme tel en 2022, bien là, il me semble que c'est très clair que M. Duhaime a sa place. Puis, il me chicanait, j'avais des petits textos, là, il me disait « C'est même pas vrai là, que si on n'a pas de député, on ne peut pas être au débat des chefs. » Mais d'après moi, maintenant qu'il y a un député, ils vont le plaider. Ils vont dire « J'en ai une députée, là, il faut qu'on soit invité. »
Exactement. C'est pas vrai quand j'en ai pas, ça devient vrai quand j'en ai. Là. C'est correct, ça. Hey, un texto super intéressant qui est rentré. Maïté Blanchette-Vézina aurait quand même pu attendre à l'automne. Ça donne l'impression qu'elle ne fera plus rien pour Rimouski d'ici l'élection. C'est croche en maudit. Ma famille habite à Rimouski, sont vraiment fâchés.
Bien, ils n'ont pas tort. Il n'y a pas tort parce que même si elle va dire « Non, je vais représenter mes élus, mes commettants, pas mes élus, mes électeurs de Rimouski », la priorité, c'est de se faire élire dans la pelleterie. Puis je vous le disais tantôt, ce n'est pas gagner d'avance dans la pelleterie. Elle va devoir quand même travailler très fort. Donc, on s'imagine que le terrain va se faire pas mal plus dans la pelleterie que dans Rimouski comme tel. C'est un bon comté quand même pour le Parti conservateur, la pelleterie, là, mais... Madame Blanchette-Vézina met beaucoup l'accent sur les régions. Je dirais pas que la pelleterie, c'est un comté de région. En
non,
tout cas, moi, je trouve pas.
C'est pas mal un comté urbain.
C'est ça.
Est-ce qu'on a fait un choix quand même avisé de se dire, ah, Éric Kerr, on n'en a plus vraiment parlé. Ça a été très difficile avec la SAAQ Click. On va l'envoyer là. On risque de gagner.
Bien, peu importe si ça avait été elle ou un autre candidat, le Parti conservateur avait des bonnes chances. En fait, c'est une des bonnes circonscriptions qu'il avait à distribuer. Donc, okay. Il a décidé et fait ce choix-là. Et M. Duhaime a dû quand même se poser la question parce qu'il se présente comme quelqu'un de très intègre, en opposition à un gouvernement de la CAQ qui a fait plein d'affaires, à son avis, qui sont croches, qui ne sont pas correctes, qui a manqué d'intégrité sur plein de choses. Bien, en faisant ça, il se salit un peu, dans le sens que il prend une transfuge, il parachute une candidature qui ne vient pas de la place. Donc, il y a quand même quelques risques à présenter Maïté Blanchette, mais je pense qu'il a dû peser les pour et les contre et dire qu'il y avait davantage de pour que de contre pour lui en faisant ça. Et surtout, à mon avis, il veut créer aussi un effet d'entraînement, de montrer que le Parti conservateur est une vraie force politique puisque les partis sont en recrutement intense en ce moment. Bon, le PQ, ça va bien, vous voyez. Il présente à chaque semaine des candidatures, notamment dans Rimouski.
Oui.
Le PQ qui présente un pédiatre dans Rimouski. Et d'ailleurs, Pascal Bérubé, ce matin, lançait un défi à Maïté Blanchette-Vézina de se présenter dans Rimouski. J'ai voilà. trouvé ça très bon.
Le Parti conservateur dans Rimouski était à plus ou moins 8% sur Québec 125. C'est sûr ouais, qu'elle n'allait pas là.
Est-ce qu'elle est appréciée comme personnalité politique? Parce qu'on entend un peu tout et rien sur elle.
Je te dirais que c'est mitigé. C'est-à-dire que localement, elle est connue, elle était très impliquée, etc. Mais il y avait toutes sortes de rumeurs aussi qu'avant les élections en 2022, elle aurait magasiné son parti politique. Mm-hmm. Donc, ça aussi, quand elle a décidé de quitter la CAQ.
Parce qu'elle était mairesse là-bas.
Elle a été mairesse, effectivement, d'une municipalité.
Oui, dans le coin de Rimouski, oui, me semble.
Si je ne m'abuse, je ne viens pas de la région, pardonnez-moi.
Non, mais c'est ça. Donc, c'était une figure populaire de la région. Alors, elle en a profité pour « OK, qu'est-ce que tu m'offres, Québec solidaire? Qu'est-ce que tu m'offres, la CAQ? Qu'est-ce que tu m'offres, les libéraux? »
Je
parle pas du PQ,
CAQ,
parce que dans ce temps-là, il était très beau. Ben,
c'est ça. Puis, tu sais, se présenter pour la CAQ en 2022, là, c'est pas un risque bien, bien élevé. Puis là, tu te présentes pour le Parti conservateur en 2026 dans la pelleterie. Tu sais, elle choisit ses circonscriptions. Mm-hmm. Donc, on s'entend que au niveau des convictions, on peut être sceptique. Moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un change de parti politique. Tu sais, à un moment donné, un parti, là, il peut avoir un élément de contenu, une prise de position qui... C'est un deal breaker pour toi. Ça ne fonctionne pas. Puis on en a vu. Regardez, Stephen Guilbeault, au fédéral, il a décidé de quitter à la suite d'une entente avec l'Alberta sur un pipeline. Il a dit, moi, je m'excuse, j'en ai avalé des couleuvres dans ma carrière. Là, celle-là est trop grosse, je ne l'avalerai pas. Hey, puis il n'a même pas quitté le Parti libéral en passant, mais
non.
Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des gens qui disent qu'on devrait interdire les transfuges, ils devraient être obligés de démissionner, puis on refait une élection. Moi, je ne suis même pas là-dessus. T'sais.
Non, je suis d'accord avec toi.
Mais du côté de Maïté Blanchette Vézina, il y a quand même quelque chose un peu de... C'est difficile de ne pas y voir aucun opportunisme. Je comprends là, les régions. Puis là, ce matin, elle nous expliquait qu'elle veut réduire la taille de l'État puis ça va être mieux pour les régions. Tu sais, moi aussi, je suis capable de faire des contorsions avec n'importe quoi puis de justifier n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Donc, bref, à suivre. Mais peut-être aussi qu'elle aura une carrière florissante comme conservatrice.
En effet.
Et qu'on va comprendre le fil conducteur. Et que quand ça va être plus difficile pour le Parti conservateur, elle ne quittera pas, elle restera. C'est elle ça. Se présentera pareil, même si les projections sont pas bonnes. L'avenir.
Elle
nous
deviendra
le dira.
Chef du Parti conservateur. Bon, fini les rêves.
Qui sait?
Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iacarini, segment du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 101 à l'émission On en jase. Je te fais une ligne du temps avec ma relation avec Gilles Bélanger d'hier.
OK. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Gilles Bélanger, parce
oui,
que c'est un peu normal, c'est le ministre de la cybersécurité et du numérique qui a remplacé Éric Kerr. C'est pas le plus connu.
Non.
Mais il est comique en titre.
Lui, s'était mis les pieds dans les plats dès la démission de François Legault, quand le lendemain matin, là, puis là, je vais parler en termes de mort, mais de mort politique, le cadavre était pas refroidi, puis lui, il est sorti pour dire « Je veux Christine Fréchette! » Fait que déjà, en partant, on comprend que c'est pas Monsieur Communication, OK?
C'est pas Monsieur Diplomatie non plus.
Non, ouais. Exactement. Hier, fait une sortie, parce que lui, il est pro-Christine Fréchette, puis si c'est Drainville qui gagne, à chaque montant de la CAQ, je veux rien savoir. Donc, moi, je tombe là-dessus. Je dis, mais mon Dieu, j'ai besoin de Gilles Bélanger en entrevue. Alors, j'écris à son attaché de presse. Il est à peu près 4h de l'après-midi. Son attaché de presse me répond, à quelle heure? 8h30. Oui, parfait, complété, excellent. J'informe Yannick Marceau, l'animateur de Marceau le matin. Il dit, parfait, ça va être bon, Gilles Bélanger. Oups, je sors du gym, moi, à 6h30. Je prends mon fil d'actualité. Christine Fréchette qui a fait une sortie. Il n'est pas question qu'on commence à jouer à ça. Puis, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Comme par magie, pendant que je suis en train de lire l'article sur mon téléphone, j'ai un message de l'attaché de presse de Gilles Bélanger.
Ben, voyons.
On a un empêchement pour repas.
Oh, c'est
quel hasard!
Ben, ça donne si mal!
Là, ça fait deux fois qu'il y a des problèmes de communication. D'après moi, on va le gérer un peu mieux du côté de Christine Fréchette. Là.
C'est ce qu'on appelle un loose cannon dans le langage politique. Bon, écoute, hier, il faut le dire, là, Christine Fréchette avait des annonces quand même intéressante à faire.
Oui, d'ailleurs, Pascal nous a préparé un dossier là-dessus, justement, sur les annonces de sécurité publique et d'informatique.
Et en plus des annonces sur le contenu, il y avait des appuis de taille à annoncer du côté de Christine Fréchette. Éric Girard, ministre des Finances, France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, c'était deux appuis qui étaient attendus, même, j'ai envie de dire, ils étaient même plus attendus dans le sens qu'on pensait peut-être qu'Éric Girard n'allait pas se positionner dans cette course et finalement a décidé d'appuyer Christine Fréchette. Mais est-ce qu'on a parlé de ça?
Non.
On a parlé de Gilles.
On a parlé de mon oncle Gilles.
On a parlé de Gilles qui, lui, trouve que si Bernard Drainville devient chef, c'est tellement la catastrophe que lui, il va s'en aller carrément de la CAQ. Ce qui a fait en sorte que M. Drainville a réagi. C'est tellement facile pour M. Drouin, je m'excuse. Il devait dire ah, avec un appui de même, Christine, t'as pas besoin d'avoir des adversaires politiques.
Exactement.
Donc, il a fait un tweet dans lequel il invitait là, Christine Fréchette à faire un appel au ralliement après
un
la
message
course.
À l'unité caquiste.
Un message à l'unité caquiste. Et Christine Fréchette a été obligée de le faire. Donc, elle avait l'air à la remorque encore de M. Drainville. Puis, il faut le dire, le contexte en ce moment aussi, c'est que M. Drainville a eu un bon débat en fin de semaine. Ça a bien été
oui, vraiment. M.
Drainville. Christine Fréchette qui a fait un débat correct, mais tu sens...
Il commence à faire peur, Bernard?
Oui, parce que, pas nécessairement parce que les sondages sont à son avantage. Moi, je suis certaine qu'on va avoir un autre sondage d'ici la fin de la course, bien évidemment. Mais les sondages aussi, dans une course à la chefferie, c'est un peu plus compliqué d'avoir le portrait exact parce qu'on va sonder des sympathisants qui ne sont pas nécessairement les membres actifs, ceux qui vont vraiment voter. Donc, il peut y avoir des distorsions. C'est un peu dur à prévoir. Je ne peux pas dire que tout a reviré de bord samedi pendant le débat, mais M. Drainville a fait un bon débat. Son équipe et ses militants étaient très, très contents, alors que ceux de Christine Fréchette étaient satisfaits, savaient qu'ils avaient juste à faire quelque chose de... Tu sais, un match sans point ni coup sûr. Je ne sais pas, je suis bonne dans les métaphores.
Un match sans point ni coup sûr, ça, c'est vraiment un exploit dans le baseball. C'est pas ça. Alors, c'est que le lanceur...
Il fallait une partie nulle. OK. Écoute-moi. Ça prenait une partie nulle pour que Christine Fréchette et son équipe soient satisfaits.
Ça, j'aime ça.
Non, bravo. Je ne vais plus jamais m'aventurer dans
les métaphores de sport. Félicitations, Antonine. Non, mais fais-moi en parler avant, je te glisserai à mon
avis. Effectivement, il faudrait que je les prépare un peu mieux. Toi. Non, mais il ne faut jamais aller sur un terrain qu'on ne connaît pas, tu vois. Il faut connaître son expertise. Je n'y connais rien en baseball. Donc, tout ça pour dire que M. Drainville a eu un bon débat. Et là, Mme Fréchette avait besoin d'avoir des bonnes journées, tu sais, faire des annonces et tout ça. Et quand tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, qui te met des bâtons dans les roues. Tu te dis, hey, la prochaine fois, laisse faire de m'appuyer, mon ami, puis reste chez vous.
Va-t'en appuyer, Bernard. On termine le caucus avec la loi sur la laïcité parce que les signes religieux, c'est-à-dire l'absence de signes religieux et le port de signes religieux, va être interdit dans nos milieux de garde subventionnés, autant les CPE que les garderies privées. Et là, il y a un sondage qui est sorti auprès de la population. Mais avant que tu nous parles des résultats du sondage, on retourne dans le temps. 24 octobre, émission de Richard Martineau sur Cube Radio. On écoute pourquoi Jean-François Roberge avait décidé d'étendre cette règle-là au service de garde.
De cheminement dans la société. L'objectif en laïcité, là, c'est pas nécessairement d'aller le plus loin possible, le plus fort possible, le plus vite possible. C'est un sujet qui est délicat. On parle de droits fondamentaux, on parle de laïcité de l'État, mais il faut être en phase avec les Québécois. Il y a des pays européens qui vont beaucoup plus loin que nous, puis ils peuvent avoir raison de le faire. Mais notre modèle, c'est pas juste de copier ce qui se fait ailleurs. Puis en 2019, je vous dirais que notre loi 21, elle était audacieuse. Plusieurs Québécois trouvaient qu'on allait pas assez loin, d'autres trouvaient qu'on allait trop loin. Mais depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. L'école Bedford notamment, mais pas seulement. Puis l'opinion publique a changé. Puis je pense que la plupart des Québécois voient notre loi 21 comme le minimum en ce moment, puis trouvent que c'est le temps d'aller un peu plus loin. Donc je pense qu'il faut écouter les gens, puis je suis d'accord avec cette opinion publique-là. La mienne aussi a évolué au cours des dernières années. Et puis, voilà pourquoi on pense que le fruit est mûr pour avancer, puis à étendre les principes de laïcité dans nos garderies et nos CPE privés subventionnés aussi.
Donc, Jean-François Roberge a mûri sa réflexion. Il a écouté la population. Il s'est élevé au-dessus de la masse et il a dit « Les signes religieux dans les services de garde subventionnés, c'est fini. » Mais là, il mange la claque d'en face aujourd'hui.
Ben oui. Puis là, il faut le dire, c'est un sondage qui est commandé par les garderies privées qui, clairement, n'allait pas être nécessairement très favorable à une nouvelle loi parce qu'on est dans un cas de pénurie de main-d'œuvre. On a des employés en ce moment, certains qui portent des signes religieux. Alors, M. Roberge nous dit qu'il faut écouter les gens. Alors, qu'ont-ils dit, ces gens, quand on leur a posé la question? On leur a demandé s'ils étaient à l'aise ou s'ils trouvaient acceptable d'avoir des éducateurs et éducatrices en garderie qui portent des signes religieux. 68 % des parents se disent à l'aise. 68 %,
donc c'est quand même très fort. Et j'ai pas le choix de te poser la question parce que Yannick Marceau m'a posé la question ce matin, puis j'ai dit, ben tu sais, la laïcité, c'est un beau principe, et moi aussi, je veux d'un État laïque. Mais si j'étais dans la situation de parent que je ne suis pas sur la liste d'attente de 30 000 personnes, puis j'ai une place en service de garde, Bien, la laïcité, elle devient moins importante.
Puis je vais aller plus loin que ça, Jeff, parce que moi, je suis quelqu'un de très fervente en matière de laïcité. Je suis pro-laïcité.
Ah, moi aussi.
Mais la laïcité, c'est pas d'interdire toute visibilité de religion autour de soi. Là, OK? Puis Bedford, l'école Bedford, on parlait d'entrisme religieux. On parlait d'enseignants qui empêchaient des femmes de rentrer dans des classes. Ouais. On parlait d'enseignants qui faisaient des prières en classe. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui porte un signe religieux dans une garderie. OK? Puis là, je continue juste un instant sur les données. Il y a 60 % des parents qui appuie l'interdiction de signes religieux aux fonctionnaires en position d'autorité. Là, ça, c'est Bouchard-Taylor. Donc, évidemment, c'est pas parce que tu es contre qu'on interdise les signes religieux dans une garderie que tu étais contre la première loi sur la laïcité, donc la loi 21, celle qui a interdit les signes religieux chez les personnes en position d'autorité. Les gens appuient ça. Mais les mêmes personnes qui appuient ça n'appuient pas qu'on interdise les signes religieux. Et j'en suis... Je trouve... C'est des gens qui s'occupent d'enfants de moins de 5 ans.
Je veux dire, de ne pas mettre ça non plus dans le même panier. Puis moi, j'aimerais savoir combien de personnes ont répondu au sondage qui habitent, par exemple, à Montréal. Alors... Parce qu'ils sont beaucoup plus en contact avec ces gens-là. Puis ils sont peut-être moins, je veux dire, peureux, moins contre, parce qu'ils voient que tout se passe bien, puis que les enfants mènent bon train leur passage en garderie et tout ça, versus dans des régions où on en voit un peu moins.
Bien, premièrement, on en voit un peu plus davantage dans les régions. Hein. C'est moins un phénomène qui est uniquement à Montréal maintenant. Cela dit, quand on regarde les résultats, bien, hommes-femmes, déjà, il y a une différence. Mm-hmm. Les femmes sont plus tolérantes face à la présence de signes religieux. Ça fait moins partie de leur priorité, la question des signes religieux versus le bien-être des enfants, par exemple, quoi qu'on n'a pas à les mettre en opposition, mais quand même. Après ça, quand on regarde francophones, anglophones, allophones, il y a des différences aussi. Les francophones sont plus favorables à l'interdiction des signes religieux que les allophones et les anglophones. Après ça, quand on y va par région, à Montréal, effectivement, les gens sont plus tolérants, entre guillemets. Puis je ne dis pas que les gens en région sont intolérants. Là.
Non, mais je pense juste que je pense que quand tu côtoies la diversité, t'es plus... Tu sais, ma fille, à Sept-Îles, elle n'avait jamais vu une personne de couleur noire. Puis la première fois, ben, elle se pose des questions.
Il y a les deux qui existent. C'est-à-dire que moi, quand je vois une femme avec le visage couvert, je suis exposée à ça et ça me choque beaucoup plus que quand je ne les vois pas. Fait que les deux peuvent être vrais. En région, effectivement, les gens sont un petit peu plus favorables à l'interdiction. Mais même si on regarde tous ces groupes-là, c'est toujours la majorité qui accepte les signes religieux dans les garderies. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en milieu de service de garde, les gens, ça les inquiète moins. C'est moins une priorité, j'ai envie de dire, là, la purge, le complète de toute trace de religion qu'à l'école. L'école, c'est différent, OK? Les éducatrices et éducateurs, ce ne sont pas des enseignants. On n'est pas dans un lieu où on est en train de parler de philosophie puis d'en faire
des
citoyens.
On est dans un lieu ludique.
Hey, on leur apprend à aller à la toilette.
C'est ça.
Puis à manger des collations, puis à partager avec les amis.
Oui, puis là, les petits amis, là, ils prennent le petit truc, là, ils tiennent chacun une petite corde, puis là, ils s'en vont au parc. Puis là,
ça,
ils te regardent avec leurs gros habits de neige trop gros, puis là, ils essayent de te faire salut, puis ils sont tout heureux.
Ils sont cute. Mais cela dit, moi, je trouve ça important qu'on ait ces débats-là. Mais je trouve que la conclusion de tout ça, c'est que, tu sais, quand tu veux faire des politiques sur la laïcité, veux pas, c'est divisif, c'est polarisant, c'est émotif, c'est pas facile. On va enlever des droits à des gens. M. Robert, je le disais dans sa citation en début de sujet. On a un nombre de cartouches limitées de division sociale, à mon avis. Puis la laïcité, c'est tellement important que moi, je pense qu'on doit agir avec tact, avec diplomatie et de manière très stratégique. Et pour moi, s'attaquer aux signes religieux dans les services de garde, les garderies, c'est une mauvaise priorité. Là, tantôt, tu disais, on va avoir une loi sur la laïcité, on va aller plus loin. Peut-être pas, parce que là, il va y avoir un nouveau chef à la CAQ, donc un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre. Il va y avoir prorogation. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on ferme l'Assemblée nationale temporairement et tous les projets de loi meurent au feuilleton et on redépose les projets de loi. Et là, on va être très attentifs, nous qui suivons tout ça, pour regarder quels projets de loi vont disparaître définitivement.
Ouais, oui, il pourrait y avoir des amendements dans certains projets de loi, dont celui sur la laïcité. On pourrait finalement décider de retirer la mention des signes religieux pour les services de garde.
Exactement. Et je pense qu'on doit se garder de faire des comparaisons entre Bedford. On peut être choqué par ce qui s'est passé dans les écoles montréalaises, bien sûr. Mais de là à dire, ah ben là, il faut aller plus loin et sans aucune considération sur les contextes particuliers, je pense qu'on fait fausse route et que ça n'aide pas l'appui et l'acceptabilité aussi de la laïcité dans la population. Il faut agir intelligemment.
Antonine Iacarini, merci de nous ramener à l'équilibre. Ben, okay. C'est, non, mais c'est exactement ce que tu viens de faire avec le point pro-laïcité, mais en étant équilibré dans les conséquences de cette laïcité-là. Je t'en remercie infiniment.
On fait tous un effort pour en débattre de manière saine, puis voilà. On en jase, ben, c'est toujours le cas.
Le caucus avec Antonine Iaccarini, c'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 à l'émission On en jase. D'ailleurs, à l'émission On en jase, dans un instant, Mathias Turcotte vient nous présenter ce qu'il s'est dit au point de presse de la Ville de Québec aujourd'hui, parce qu'on a fait un point de presse à 9h30 ce matin. C'était pas encore fini à 11h30, il y avait encore des questions des journalistes. On a fait un point de presse parce que ça allait bien dans la communication. Mais ça va tellement bien que ça fait 2 heures qu'on est en conférence de presse pour expliquer comment ça va bien puis comment on va changer les choses. Et parlant que ça aille bien, on va parler aussi avec Marie Langlois, directrice générale de la Société de développement commercial Montcalm. Pour ceux qui se demandent c'est où, René Lévesque, Avenue Cartier, ça fait partie de la Société de développement commercial Montcalm. Elle va nous raconter le bordel dans les communications avec la Ville de Québec. C'est à On en jase dans un instant sur Boulevard 102.1.